Voici le jour. This is the day. Il y a quelque chose qui m'a... une lecture qui m'a beaucoup encouragé en cette rentrée 2024. C'est pas dans la Bible, mais c'est dans le Riou, le magazine de notre église. Pendant l'été, la parole est donnée à différentes personnes de l'église et pour un florilège de méditation, et le titre c'était « L'aventure, c'est l'aventure ». C'est « L'aventure, c'est l'aventure ». Le titre c'est « L'aventure, l'aventure, c'est l'aventure ». Une allusion au film des années 70 avec Aldo Macchione, Lino Ventura et Jacques Brel, meilleur chanteur qu'acteur d'ailleurs, mais bon... L'aventure, c'est l'aventure. Et dans ces différents articles du Riou, du magazine du Riou, il y avait un article, par exemple, sur la conversion de Saul à Paul et l'aventure de la mission qui lui est donnée. Magnifique article écrit par... Je ne sais pas si je vais donner... Non, je ne donne pas les noms. Et puis, il y a aussi un article qui a été écrit sur les disciples et leur... filet qu'ils doivent lâcher pour partir à l'aventure à la suite de Jésus. Et puis il y avait un article sur le jeune homme riche que Jésus appelle à le suivre dans l'aventure, mais qui rate l'appel de Jésus, qui ne part pas à l'aventure, surtout à cause de ce qui l'encombrait dans sa vie. Et puis, lui, le jeune homme riche et bien sous tout rapport, ne prend pas l'aventure. Et puis, il y a l'aventure de Caïn. Alors, l'aventure de Caïn, avec cette phrase que ma mère me disait aussi, ce vers de Victor Hugo, « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Ça m'a toujours effrayé, ça. Un article magnifique aussi par la maman de Sarah Rosso. Qui nous dit que malgré tout, Caïn reçoit une protection de la part de Dieu. Malgré son crime envers Abel, il reçoit une protection. C'est toute l'histoire de la grâce. L'aventure de la grâce de Dieu avec Caïn, avec Noé, l'aventure de la foi. Il construit un bateau, la mer est à 300 km, tout le monde se moque de lui. L'aventure de la foi avec Noé. Jacob, qui s'appelle le tordu, le filou, qui devient Israël parce qu'il lutte avec Dieu face à face, Péniel, Panim tout Panim, et qui est dans cette lutte avec Dieu reconstruit, l'aventure de la reconstruction personnelle et l'aventure aussi de la réconciliation avec Ésaü. Et puis les mages, magnifique aussi, article de je ne sais pas qui, je ne m'en souviens plus, mais l'aventure scientifique des mages qui, contre toute attente, vont suivre une étoile qui les mène à Jésus. Ce sont des gens que l'on n'attendait pas au chevet de Jésus, ces scientifiques de l'époque. Ces outsiders, comme j'aime à les appeler, ces gens du dehors, comme le dit Colossiens 4, comme le dit l'autrice de cet article, des persona non grata, mais pas non gratia. L'aventure aussi de l'accueil des gens qui ne sont pas vraiment attendus là où ils sont. Et puis dernier article, aussi d'aventure, le peuple hébreu qui refuse l'aventure du pays promis avec Dieu. Et moi, tous ces articles, ils m'ont enthousiasmé parce qu'on sentait que les gens qui étaient là, qui ont écrit, avaient envie de partir à l'aventure. Ce n'est pas des articles que j'ai écrits. C'est pas moi qui me motive. Allez, on va partir à l'aventure. Je vais peut-être le faire, mais... Là, c'est des gens... Est-ce que vous avez envie de partir à l'aventure avec Dieu aussi ? Dans la vie, l'aventure de la vie avec Dieu. Et je voudrais rebondir sur ce dernier article, le refus d'aventure des Hébreux à l'époque. Et le texte de Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, le quatrième livre de la Bible. Et donc, ils sont encore dans le désert, tout le peuple hébreu, ils sont sortis avec Moïse, la mer qui s'ouvre, etc. Et puis ils envoient des espions dans le pays promis, ou des éclaireurs, ils en envoient 12. Et voilà, et ils reviennent. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et la suite, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes de haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant cette nuit-là. C'est le récit de l'aventure du pays promis, mais d'une aventure refusée, d'une aventure bloquée. L'aventure, oui, certes, on est pour l'aventure. Le problème, c'est qu'il y a des géants. Il y a des géants. Pourtant, dans toute aventure, il y a des obstacles, hein, petits ou géants. Ce qui fait l'aventure, c'est l'obstacle, mais malgré tout, ça nous fait reculer devant l'aventure. Ça les fait reculer, sauf Caleb et Josué. Et les Hébreux vivent ce que j'ai appelé un complexe. C'est une histoire de complexe. Un complexe, on pourrait appeler d'infériorité, on pourrait lui donner un autre nom, un nom d'animal. Vous savez qu'il y a le complexe du homard, c'est pas celui-là dont je vais vous parler. Le complexe du homard, on parle pour le complexe du homard pour les adolescents qui, comme le homard, se trouvent à une période de leur vie sans carapace, sans protection. Mais pour les Hébreux, on pourrait parler du complexe de sauterelle. Nous avions l'impression d'être comme des sauterelles à nos yeux. Et c'est très intéressant de voir que les envoyés ajoutent, enfin les éclaireurs de retour, les 10, et c'est bien ce que nous étions à leurs yeux. Nous étions comme des sauterelles à nos yeux, et c'est bien ce que nous étions à leurs yeux, aux yeux des géants. Un vrai complexe que celui de la sauterelle, un complexe d'infériorité qui nous fera dire on n'y arrivera jamais, on est trop petit, on ne compte pas, nous sommes quantité négligeable, on va se faire ratatiner comme de vulgaires insectes, c'est ce que nous sommes. On va faire manger tout cru parce que, vous savez, les sauterelles, ça se mange caramélisé ou au barbecue. Ça se fait bouffer les sauterelles. Alors, devant un complexe quel qu'il soit, on peut se demander quelle est la réalité derrière. Est-ce vrai? Sont-ils vraiment des sauterelles? Y a-t-il un problème dans la perception de la réalité? Alors oui, certes, il y a bien des gens dans ce pays promis, qui était promis, mais il y a des gens dedans. Ils sont armés, ils sont sur la défensive, il y aura de l'opposition, il y aura des combats, ça va faire mal, c'est vrai, mais ça c'est la réalité, comme je le disais tout à l'heure, de l'aventure, ça en fait partie. Il y a une part de risque dans l'aventure, il y a une part d'inconfort, demandez aux participants de Koh Lanta s'il n'y a pas un peu d'inconfort, il y a une part d'imprévisibilité. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, dans la vie, ou même dans la vie chrétienne, tout n'est pas planifié d'avance. Le plan de Dieu, c'est le salut des hommes. Tout n'est pas planifié. Alors, il y a de l'imprévisibilité, et puis en plus, il y a des géants. Et à côté des géants, on a l'air petit. C'est comme si on mettait, je ne sais pas si vous vous je pense qu'il a mis sa retraite. Les géants dans la vie, vous avez sur la photo de droite, Shaquille O'Neal, 2m10, 140 kg, avec sa femme à côté. Mais si on me met à côté, je suis petit et mince et maigre. Shaquille O'Neal, c'est un vrai géant. Et j'ai une photo, comme on était dans les Jeux Olympiques, de deux champions olympiques. Regardez, LeBron James et Simone Biles, championne olympique de gymnastique, et LeBron, champion olympique, malgré la bonne tenue de la France, champion, ils ont battu la France en finale. Elle a l'air petite, Simone Biles. Pas seulement l'air, elle est petite. 1m42. Vous savez, en revenant à Shaquille O'Neal, vous savez comment les choses, Shaquille O'Neal ? 63. Et oui, ce sont les choses qui arrivent. Le fils de Laurence et Mathias, il fait 2m7, tu m'as dit 2m7. Bon, bref, allez, il y a des géants dans la vie. Déjà dans le sixième chapitre du livre de la Genèse, il y a des géants. Et il faut noter, et c'est intéressant, que le mot géant, en hébreu, néphilim, veut dire aussi ceux qui sont tombés. Grand peut-être aux yeux des hommes, mais tombé pour Dieu. Mais cela, les 10 espions sauterelles ne l'ont pas perçu. Et toute la question est de savoir avec quels yeux ils perçoivent la réalité. Leurs yeux humains, trop humains, comme disait Nietzsche, nos yeux, ou encore les yeux des autres, le regard des autres, qui pose la réalité dans mon monde, dans notre monde, dans votre vie, qui pose la réalité ? Mes yeux, leurs yeux, ou les yeux de Dieu ? Ne serait-ce pas les yeux de Dieu, le regard de Dieu qui poserait la véritable réalité, la véritable réalité, si vous me passez l'expression. Et donc, leur attitude, leur complexe de sauterelle vient principalement d'un problème de regard posé sur une réalité donnée. Et ces hommes et ces femmes qui nous ressemblent tant manquent manifestement de vision, de confiance dans le regard de Dieu, de foi. Est-ce que c'est Dieu qui fonde votre réalité ? Est-ce que c'est son regard qui fonde ma réalité ? Manifestement, les sauterelles manquent de foi et de vision, et quand on manque de foi et de vision, ça provoque toutes sortes de comportements pathologiques. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit même. C'est la dépression pour les sauterelles. La grande dépression. C'est pas drôle d'être une sauterelle. C'est pas drôle d'être complexé. Et puis, on connaît la suite, à cause de ce manque de vision de la réalité de Dieu, de confiance au regard de Dieu sur ma réalité, que Moïse appellera un peu plus tard le mépris de Dieu. Pendant combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore ? C'est fort comme terme. Ne pas faire confiance en Dieu. Et ils vont, à cause de ça, ils vont rester 40 ans dans le désert, à pérégriner dans le désert. À noter que le désert est peut-être le meilleur endroit pour des sauterelles. Et toute cette génération ne verra pas le pays promis, excepté Caleb et Josué. Un report d'une bénédiction, un report d'une promesse. Tout ça à cause d'un complexe, celui de la sauterelle. Un complexe de sauterelle qui nous empêche de partir à l'aventure avec Dieu, d'oser l'aventure de la vie chrétienne, de la vie de disciple, de la vie d'église. Alors, oui, il y a des géants sur la route. Il y a des Goliaths. Il y a des montagnes. Je ne vais pas vous en énumérer une liste, mais je vous laisse réfléchir ce matin, en ce 8 septembre 2024. Que vous soyez canois, ou belge, ou allemand, qu'est-ce qui vous paraît insurmontable ? Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui, pour cette année, en cet instant T, une montagne pour cette année 2024-2025 ? Peut-être tout simplement la vie quotidienne, hein ? Le nombre de choses à faire, métro, boulot, dodo, télé, ciné, école, devoir enfant, maison, loisirs. Ce quotidien qui nous mange tout cru. Il y a aussi le monstre, le géant d'un changement important dans sa vie ou au travail, un déménagement, un passage à la retraite, une année transitoire, le monstre de nos problèmes de santé, le monstre de nos problèmes au travail, le monstre ou le géant de nos problèmes relationnels, ou le monstre aussi des problèmes avec moi-même. Oui, ou encore le grand géant de notre société aujourd'hui qui devient de plus en plus complexe. Moi, je dois avouer, mais ça doit être l'âge, que je ne m'y retrouve plus vraiment. Je suis dans ce monde comme une sauterelle, et l'Église, sur le plan mondial ou local, aussi est une sauterelle, et moi qui fais partie de cette Église, de ce corps, je suis encore plus petit. Et quand on se sent petit, on va jouer petit bras, comme au tennis. J'ai fait 2 ou 3 tournoi de tennis dans ma vie, et j'ai joué le premier set petit bras. Pour les joueurs de tennis, Michel, tu connais, petit bras. On est pris par l'enjeu, et le coup droit, il part pas, sans parler du revers. Mais le coup droit, on joue petit bras. Et quand on est complexé comme une sauterelle, on va jouer petit bras, et on va s'engager du bout des pieds dans l'aventure de la vie. Et je parle de la vie avec Dieu aussi, mais de la vie en général. Et on sent parfois ce complexe de sauterelle dans l'Église, parmi les chrétiens, une atmosphère légèrement défaitiste, légèrement pessimiste. On y croit, mais pas trop quand même. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les autres le sentent aussi. Ceux de l'extérieur, comme les mages, les outsiders, selon Colossiens 4. Ceux du dehors, les outsiders, qui ne sont pas censés gagner la course, mais qui pourraient vraiment la gagner. C'est un outsider qui pourrait vraiment rentrer dans la famille de Dieu. Et la Bible nous invite à être sensibles aux outsiders. Et vous savez que peut-être que parmi ces outsiders, il y a Philippe Bouvard, vous savez, qui animait les grosses têtes pendant des années sur RTL. Et là, dans une interview de 1989, ça remonte, il dit ceci: 100 fois, au hasard des rencontres, je me suis ouvert de ma quête à des ecclésiastiques éminents. 100 fois, je leur ai expliqué que j'imputais mon agnosticisme à la faiblesse de la rhétorique employée pour me convaincre, ou à la timidité de démarches qui, plus insistantes, auraient pu finir par emporter mon adhésion. 100 fois, mes interlocuteurs se sont détournés d'un air gêné. Ma belle âme ne les intéressait pas. Des ecclésiastiques pris par le complexe de sauterelle. Trop gêné pour parler à Philippe Bouvard, qui semblait s'intéresser, être en recherche. Je ne sais pas s'il faut le croire sur le fait qu'il ne demande qu'à croire, mais sur la timidité des ecclésiastiques et de tous ceux qui sont dans l'Église, on est prêt à le croire, parce que le complexe de sauterelle aurait gagné toutes les Églises. Et pas seulement les ecclésiastiques, mais toi aussi peut-être, en cette rentrée 2024. Alors, ce complexe de sauterelle, il faut absolument en faire quelque chose et le passer au test de la réalité de Dieu. Et on va parler de la réalité de Dieu sur l'Église, de son regard sur l'Église, c'est-à-dire le corps, ce corps vivant que nous formons tous, que vous formez avec nous. Sommes-nous des sauterelles? Sommes-nous des cigales? Sommes-nous des criquets? Et je voudrais faire appel à un témoin privilégié pour nous dire quelle est la réalité de Dieu sur l'Église. Et ce témoin, c'est la parole de Dieu. Ce témoin, c'est Jésus, le Verbe incarné, le Logos de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit sur l'Église. Jésus nous parle de l'Église, membre de ce corps. Mais moi, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre, toujours le premier à répondre, impulsif, répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, Tu es Petros en grec, et sur cette Petra, il y a un jeu de mots, mais ce n'est pas le même mot quand même. Je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est la réalité de Dieu sur l'église, ce corps vivant que nous formons ensemble, dont vous êtes les membres, les pierres vivantes, si vous entrez dans l'aventure. On remarque d'abord qu'il dit « Je bâtirai mon église ». C'est pas un petit truc que les hommes ont inventé, là. On se dit « On ne sait plus quoi faire, il est ressuscité, mort, ressuscité, on va... » C'est pas une parenthèse de l'histoire, comme nous disent certains dispensationalistes. Non, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, il est mort pour elle. Il aimait tellement l'Église qu'il est mort pour elle, nous dit-il dans Éphésiens 5. Il a donné son corps, il s'est livré pour l'Église. Ça, c'est la réalité de l'Église. Christ est mort pour elle, elle vaut tellement à ses yeux. C'est « je lui donne ma vie », dit Jésus. À l'Église, je la veux vivante par ma vie. Et pour cette raison même, parce que Christ est la vie de l'Église, alors les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le Sheol ne prévaudront pas contre elle. Le monstre de la mort, le géant de la mort, la peur de la mort, qui est la reine des peurs, comme dit Job, ne pourra rien. Au contraire, c'est l'Église qui va prévaloir. C'est l'œuvre du Christ qui va prévaloir. Et qui va valoir, premièrement, et le verbe grec pour prévaloir veut dire aussi être fort, l'emporter sur, une Église qui l'emporte, une Église qui prévaut par la vie de Christ. Ça, c'est la réalité de Dieu. Pas de complexe à avoir pour l'Église et pour moi et toi dans l'Église. Une Église qui prévaut, contre laquelle même la mort ne peut rien, et a fortiori tous les autres pouvoirs. Tous les autres géants ou monstres qui sont aussi marqués par le jugement, elle est tombée, la grande Babylone. On parle en images, je ne parle pas de Paris, de Lyon, ou d'Amsterdam, ou de New York. La grande Babylone, la force, le géant du mal, il est tombé. La grande Babylone tombe, mais l'Église prévaut. Je vais vous citer un pasteur qui s'appelait Bill, et j'ai suivi beaucoup de ses conférences, de ses congrès, alors que j'étais en Belgique. Et en 90, je suis venu faire une rencontre à Paris avec lui et 300 missionnaires américains. J'étais le seul francophone, là. Et puis en 94, j'ai amené toute une troupe d'amis belges pour écouter lui et son équipe en Hollande. Non, c'était en 96. Et donc, il nous a parlé, à moi et à quelques sauterelles belges perdues dans les polders, pendant une heure sur le thème qui apparaît sur l'écran. Rien de tel que l'Église. C'était en anglais, vous savez comme j'aime l'anglais. Et c'était « Nothing like the church ». Rien de tel que l'Église. Et il m'a impressionné, le gars. Alors certains disaient que c'était juste un slogan ou un punchline, comme on dit aujourd'hui, mais c'est un beau slogan, et c'est un slogan qui est vrai. Rien de tel que l'Église, parce que c'est la prunelle des yeux de Dieu. Parce que c'est son œuvre qui va transformer le monde, parce qu'elle est porteuse de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Rien de tel que l'Église pour vaincre le pouvoir de la mort, pour vaincre le pouvoir des ténèbres dans les vies des gens. Et je vous parle d'un ami que j'ai eu. Il s'appelait Alain van der Elst. Il était de Mons, famille de pharmaciens. 4-5 pharmacies à Mons. Riche. Doué. Sportivement. Il était avec Ivo Van Damme, un grand champion belge pour le demi-fond. Il était peintre, sculpteur, écrivain. Mais alcoolique. Il avait une galerie à Bruxelles et il connaissait un peintre chrétien qui venait dans notre église, la communauté chrétienne de Stockel. Et je rencontre Alain van der Elst dans cette galerie. Il était saoul, complètement saoul. Et puis, par l'entremise de cet ami peintre chrétien, et un peu par l'Église, Alain van der Elst se convertit radicalement. Il sort des ténèbres. Il devient président des alcooliques anonymes de Mons. Il meurt en 2006 d'un cancer du foie à 49 ans. Mais il laisse derrière lui un témoignage extraordinaire. Son ex-femme, qui lui contestait la paternité de ses deux premiers enfants, s'est convertie. Ses deux enfants sont chrétiens. Son fils, John, est missionnaire avec Wycliffe. Il s'est remarié avec une chrétienne, Caroline. Il a eu 4 enfants. Ses 4 enfants sont tous engagés dans le Seigneur. Magnifique de voir que la famille van der Elst est sortie des ténèbres de l'alcoolisme et d'une vie sans Dieu. Et ce qui est super, c'est que Elise van der Elst, la fille d'Alain et Caroline, est championne de Belgique de 1500 mètres, du demi-fond, et elle était qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Et là, elle est allée à l'aumônerie et elle a rencontré Simon van der Does, notre fils qui est là, qui était aumônier pendant cette période. Et Elise van der Elst, qualifiée pour le 1500, était là. Et sa mère, Caroline, nous a écrit un petit mot. C'est deux enfants de la communauté chrétienne de Bruxelles. Waouh ! Non, mais ça nous réchauffe le cœur. Rien de tel que l'Église pour sauver des familles. Rien de tel que l'Église pour venir en aide aux plus démunis, pour venir en aide, comme le font Mouna et Charles à Kinshasa pour les enfants de la rue là-bas. Rien de tel que l'Église dans son sens large et universel pour être un espoir dans ce monde, pour ces enfants-là et d'autres. Et nous en parlerons dans quelques minutes de leur aventure dans la mission pour Dieu. Ça, c'est la réalité de l'Église. Rien de tel que l'Église, un espoir pour le monde. Ça, c'est le projet de Dieu réel, véritable, sur l'Église et sur moi et sur toi, qui est corps dans ce corps, ou qui fait corps dans cette Église. Et parce que c'est Dieu qui fait la réalité de ma vie et de la tienne, parce que c'est son regard qui fonde la réalité et qui me fonde, je ne vais pas me sentir comme une sauterelle, mais comme un fils ou une fille de Dieu, adopté, pardonné, réconcilié, renouvelé, transformé en une pierre vivante, bourrée de talent et plein d'amour dans son Église, dans son corps qui est l'Église. Et je vais pouvoir me lancer dans l'aventure de la vie avec confiance, parce que je sais qu'il est au bout du chemin ou au long du chemin, et qu'il est avec moi sur ce chemin, parce que je sais aussi que tous les géants de ma vie, tous les Goliaths de ma vie sont vaincus, et que rien ne pourra m'arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est dans Romains 8. Ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, nous dit le texte. Celle du bas, celle qui nous tire vers le bas, qui nous fait rentrer dans le complexe de sauterelles. Non, rien ne pourra m'arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et puis, deuxième promesse, en Matthieu 28, voici, tout au long de l'aventure, nous dit Jésus, l'aventure de la vie, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen.